Ce qui suit est une production de WebWest Balado. On s'entend là-dessus.
Bonjour, je m'appelle Joëlle Boulay. Bienvenue à Jason Éducation. Aujourd'hui, mon invité, Joëlle Tétreau.
Je m'appelle Joëlle Tétreau. Bienvenue à Jason Éducation, où nous parlons des sujets qui intéressent les pédagogues qui travaillent en français dans un contexte minoritaire. Nous, les enseignants déterminés et ambitieux, nous posons des bonnes questions pour nous faire réfléchir à la pédagogie afin de mieux appuyer nos élèves.
L'épisode avec Joëlle Tétreau sera en deux parties. Ne manquez pas l'épisode 3 pour la suite. Joëlle Tétreau est enseignant d'éducation autochtone à la division scolaire Louis Riel. Il est père, mari, éducateur et raconteur. Et je viens d'apprendre que ça, c'est la même chose, éducateur et raconteur. Il enseigne depuis 20 ans et 3 ans comme enseignant d'éducation autochtone. Bienvenue, Joëlle.
Merci. Content d'être ici.
Comment ça va aujourd'hui?
Ah, ça va très bien.
Tu as un rôle très, comme je dirais, unique dans ta division scolaire. Comment est-ce que tu t'es rendu dans ce rôle-là et puis qu'est-ce que c'est exactement?
C'est une très bonne question. J'ai été enseignant de salle de classe pendant 17 ans. Ma spécialisation, c'est surtout l'histoire du Canada. Ensuite, j'ai commencé à enseigner un cours de ce qu'on appelait perspective autochtone. Et ensuite, j'ai enseigné presque tous les cours d'humanité, sciences humaines, géographie, études de films francophones. C'est un cours que j'avais développé au Collège Béliveau. Mais étant métisse, puis étant quelqu'un qui a toujours été intéressé, mais aussi dédié à la réconciliation. Puis c'est pas un mot qui était très populaire, là, ou même qu'on reconnaît ça il y a 10 ans. Mais c'est quelque chose que j'ai toujours intégré les perspectives autochtones, surtout dans mes cours d'histoire. Et pour moi, c'est une priorité de rétablir les bonnes relations puis d'enseigner l'histoire de la bonne façon. Souvent, quand on enseignait l'histoire, c'était du point de vue colonial. Comment c'est les colons ont apporté, on les appelait les explorateurs. Maintenant, je les appelle les exploiteurs, mais c'est la façon qu'on nous enseignait l'histoire et c'est la façon que je l'ai enseignée pendant longtemps. Et ensuite, j'ai commencé à lire, faire de la lecture. J'ai toujours voulu découvrir qui j'étais comme métisse. Puis comme quand tu es jeune, puis on dit que tu es métisse, surtout quand j'étais jeune, je ne savais pas vraiment qu'est-ce que ça voulait dire. Alors, pour moi, ça a été un parcours, puis ça a été une quête de savoir qu'est-ce que ça voulait dire. Alors, je faisais beaucoup de lecture, j'ai commencé à écouter des balados, regarder des documentaires. Puis j'ai commencé à réaliser à quel point que, comme éducateur, j'avais une responsabilité d'enseigner l'histoire de la bonne façon. Alors, j'ai toujours intégré les perspectives autochtones. Avec le temps, puis surtout avec la Commission de vérité et réconciliation, il y a eu des efforts surtout dans le système scolaire, d'essayer de décoloniser. Ça, c'est un mot qu'on entend souvent, c'est décoloniser le système scolaire. Et pour moi, je me voyais comme un agent de changement, puis je voulais vraiment travailler pour la décolonisation des curriculums, tous les curriculums, mais surtout en histoire. Alors, j'ai commencé à travailler dans ce domaine-là, puis surtout dans mes salles de classe, à essayer d'intégrer davantage des perspectives autochtones. Puis aussi raconter un peu mon histoire comme métisse, puis essayer de l'intégrer dans mes cours. La division scolaire a embauché après ça une directrice ou a engagé une enseignante itinérante de perspective autochtone. Puis la division scolaire Louis Riel, son nom c'était Bobby Joe Leclerc. Et elle est venue au Collège Béliveau il y a à peu près 4 ans. Puis elle s'assoyait avec les enseignants, puis elle voulait... on faisait la co-planification, comment intégrer davantage des perspectives autochtones. Puis on a établi une relation très cordiale dès le début. On avait beaucoup de choses en commun. Et à un point, elle est devenue directrice adjointe. Ils ont créé un poste directrice adjointe de l'éducation autochtone dans la division scolaire Louis Riel. Et tout de suite, elle est venue me recruter. Elle dit « J'ai besoin de toi ». Il faut décoloniser la division scolaire. Alors, il y a 3 ans, c'est ça, j'ai appliqué pour le poste de d'éducateur, d'enseignant d'éducation autochtone, un poste itinérant. Alors, j'étais pour voyager dans toutes les différentes écoles et faire ce que Bobbi Jo faisait avant qu'elle soit nommée directrice adjointe. Et c'est là que je suis devenu un enseignant d'éducation autochtone. Alors, depuis ce temps-là, j'occupe le poste. Puis pour moi, je pense sincèrement, depuis le début de ma carrière d'enseignant, tout ce que j'ai fait depuis ce temps, depuis le début de ma carrière, c'était pour me préparer pour ce poste ici. Alors, en passant de plus en plus de temps avec des aînés, j'ai commencé une vie cérémoniale à cause de Bobbi Jo. Elle m'a introduit à ce monde-là. Tu commences à réaliser que tout a une raison et il n'y a pas d'hasard. Alors, c'est ça. Rencontrer Bobbi Jo, ça a été marquant dans ma vie. Ça a été marquant dans ma vie personnelle puis professionnelle aussi. Alors, c'est ça, c'est un peu ça mon trajet à devenir. Moi, je suis convaincu, puis Bobbi Jo, puis les aînés avec qui je passe du temps, on rencontre des personnes dans les temps de notre vie qui vont nous guider dans la bonne direction. Puis je crois sincèrement que, tu sais, le Créateur a mis Bobbi Jo sur mon chemin pour que je la rencontre. Puis ce qui est incroyable aussi, c'est qu'elle m'a adopté comme frère. Alors, on est pas par sang, pas biologiquement, mais on est frères et sœurs et on travaille beaucoup ensemble. Alors, j'y dois beaucoup à Bobbi Jo, puis qu'elle a vu quelque chose. Parce que, tu sais, après 17 ans dans la salle de classe, les choses viennent faciles. Tu sais, tu te lèves le matin, tu as le même horaire. Dans ma tête, j'ai dit, je peux faire ça pour un autre 20 ans, mais est-ce que ça va... J'avais besoin d'un nouveau défi. J'avais besoin de sortir de la classe, puis... d'affecter plus de changements. Oui, je changeais où j'avais une influence sur les élèves, puis j'enseignais beaucoup d'élèves pendant une année scolaire comme prof, parce que j'étais le seul prof d'histoire au Collège Béliveau. Alors, j'avais tous les cours que je voulais. Tu sais, à un point, quand on commence notre carrière, on travaille fort, puis on bûche au secondaire parce qu'on veut les cours. Surtout si tu es passionné d'histoire, tu veux le cours d'histoire, etc. Ça m'a pris des années à atteindre ces cours-là. Mais je me réveillais le matin et je disais, oui, je peux faire ça toute ma vie ou pour le restant de ma carrière, mais est-ce que je vais affecter le changement? Et c'est ça. Puis alors, Bobbi Jo est venu exactement au bon moment pour venir me recruter. Puis moi aussi, tu sais, je suis très reconnaissant pour la division scolaire Louis Riel. Elle porte bien son nom, dans le sens qu'elle a le nom de Louis Riel, puis une de leurs priorités dans les derniers 5 ans, c'est la réconciliation. C'est de changer, c'est de décoloniser le système scolaire puis leur division scolaire. Alors, tout, tu sais, comme j'ai dit, tout arrive pour une raison. Puis c'est ça, il y a 3-4 ans, là, c'est ça qui est arrivé. Puis c'est là, je suis sur le trajet, puis j'ai hâte de recommencer l'année scolaire pour m'assurer qu'on continue le travail dans la division scolaire.
Mm-hmm. Alors, quand tu étais jeune que tu étais métisse, ouais. Qu'est-ce que ça voulait dire pour toi?
Au début, je suis né en 1977, puis en 1985, il y a eu des grandes célébrations pour commémorer les 100 ans de la mort de Louis Riel. Moi, j'étais, quoi, à ce moment, en 85, j'étais en deuxième année, puis il y avait des grandes célébrations, chantées. Mais... il y avait tellement d'amalgamation entre Canadiens français puis métis, tu sais, puis pour moi, tu sais, la langue française et la culture canadienne-française a toujours été très important. Mais on me disait toujours qu'on était métis. Mon père nous racontait des histoires de Louis Riel, puis on nous disait qu'on était métis, que les Premières Nations, c'était nos cousins, puis des choses. Mais je savais vraiment pas qu'est-ce que ça voulait dire. Alors... après, quand on chante, en 85, c'est ça, c'est à partir de ce point-là, la situation déclencheur. Ça a déclenché la curiosité, puis je voulais savoir qu'est-ce que ça voulait dire. Puis à partir de ce point-là, je peux me rappeler, deuxième année, troisième année, quatrième année, je savais que je voulais être enseignant ou raconter puis être éducateur, mais aussi je voulais savoir qu'est-ce que ça voulait dire être métis. Ça, c'est les deux choses qui ont vraiment... pousser tout ce que je faisais. Alors, j'étais un peu nerd là, quand j'étais à l'école, à l'élémentaire. J'écoutais les nouvelles, je voulais savoir qu'est-ce qui se passait. Je regardais des documentaires comme des documentaires de Gilles Carle, des choses de même sur l'ONF. Alors, j'ai toujours été à la découverte de qui j'étais. Et je suis encore après à essayer de découvrir mon identité, mais là, ça se concrétise de plus en plus. Alors, là, je pense que j'ai une bonne idée, c'est quoi être métisse. Tu sais, on a l'impression que c'est une question raciale. Pendant longtemps, je pensais, oh bien, j'étais quel pourcentage de sang métisse et ces choses-là. Puis tu apprends avec le temps que les métisses, c'est un peuple, c'est une culture. C'est un mélange de cultures, c'est pas un mélange de races. Tu sais, si tu regardes à Louis Riel, mon père et Louis Riel, ils ont le même montant de sang Première Nation. Mais c'est pas ça qui fait être métis. Métis, c'est un mélange de cultures. C'est des cultures. Alors, tu respectes la partie de tes grands-mères, des Premières Nations. Tu respectes. Tu respectes les traités qui ont été faits. Tu respectes. Puis le premier traité qu'on fait, c'est avec la terre. Alors, respecter ta géographie, respecter la terre sur laquelle que tu occupes, que tu vis. Tu as un respect pour le côté de tes grands-pères canadiens-français, les voyageurs, les gens qui faisaient la traite des fourrures, et tu respectes leur langue, tu respectes ces coutumes-là. Alors, c'est comme un peu comme, puis ça va être cliché, puis ça va être, en tout cas, c'est fromage, mais c'est un peu comme à la fourche, tu as la siniboine puis la rouge qui rentre en dedans puis qui deviennent un. Alors, c'est un peu ça. Métis, c'est tous ces différents courants-là qui rentrent dans, puis ça fait une nouvelle culture, ça fait une nouvelle nation. Alors, c'est découvrir ça. C'est découvrir que même si je parais blanc, parce que moi, si je n'ouvre pas la bouche ou je ne raconte pas d'histoire ou je ne dis pas aux gens qui je suis, ils ne vont jamais savoir que je suis métisse. Puis c'est un peu ça, tu sais, quand tu comprends l'histoire des métisses, puis ça, c'est une grande partie d'être métisse, c'est comprendre ton histoire. Comprendre que comprendre l'histoire de la colonie de la Rivière-Rouge, comment que c'était spécial ici, avant l'arrivée des colons ontariens et canadiens, français ou québécois, avant qu'ils sont venus ici. Quand on parle avant la création du Manitoba, c'était la géographie qui avait formé ce peuple-là à être un peuple qui adorait la démocratie. Toutes les paroisses élisaient leur chef de chasse. Et ça, c'est un système démocratique. C'est un peuple qui était extrêmement jaloux de la liberté du commerce. Alors, quand on parle de la libre entreprise, quand on parle de la liberté de faire le commerce avec qui on veut, tu sais, les métis étaient très jaloux de ce droit-là. Quand on pense à la tolérance puis l'ouverture envers l'autre, ça, c'est quelque chose que les Métis ont pris de leurs ancêtres des Premières Nations, cette idée d'hospitalité. Tu arrives dans la colonie, si tu décides de t'intégrer dans la société, tu décides de suivre les mœurs, de respecter la terre, respecter les différences des gens, tu vas être respecté dans cet espace puis accepté. Alors, cette idée-là, quand on parle dans nos salles de classe puis on parle d'inclusion, ça, c'est quelque chose qui existait ici bien avant que le Manitoba devienne une province. Cette idée de tolérance de différentes langues, dans la colonie de la Rivière-Rouge, les gens étaient couramment polyglottes. 5, 6, 7 langues. Gabriel Dumont connaissait 7, 8 langues. Il les parlait couramment. Alors, quand tu regardes à la création du Manitoba, la liste des droits que les Métis ont établi, c'est pas juste les Métis qui ont mis cette liste de droits-là. Il y avait des gens qui ont été élus dans des paroisses écossaises, dans des paroisses anglaises, dans des paroisses canadiennes-françaises, dans des paroisses Métis. Puis ensemble, ils ont créé cette liste des droits. Puis dans cette liste des droits, tu as la dualité linguistique qui est très importante. Dans les cours, dans les lois provinciales et dans les écoles, dans le système d'éducation, cette idée que les gens doivent avoir droit à la terre pour pouvoir vivre, c'est dans l'acte du Manitoba. Cette idée d'inclusion est implicite et explicite dans l'acte du Manitoba. Alors, les Métis je pense que la colonie de la Rivière-Rouge, c'est un peu une société que le Canada aspire encore à atteindre un jour, mais c'était déjà ici avant. Alors, ça, c'est la version de l'histoire que je veux que les élèves, et je veux que les enseignants, puis je veux que les administrateurs, puis je veux que tout le monde connaisse que le Manitoba, là, c'est riche, là, c'est que à sa racine, c'est une terre autochtone. Puis quand je dis autochtone, c'est Première Nation, c'est métis, tu pourras jamais enlever cette essence-là. Puis il faut la respecter, puis il faut la connaître. Mais aussi, les colons ont emporté beaucoup, mais colons canadiens et français ont emporté beaucoup, et des colons anglais ont emporté beaucoup. Alors, c'est un mélange. Le Manitoba, c'est ça. C'est vraiment à ce que le Canada aspire encore à être. Alors, c'est ça que... C'est ça qui me motive à chaque jour.
Alors, ça, c'était un déclencheur quand tu étais jeune,
oui.
qui t'a poussé sur le chemin.
Ça me pousse encore.
Et ça te pousse toujours.
À chaque jour, je me réveille le matin, puis comment qu'on peut... Tu peux pas avoir la réconciliation si tu n'as pas la vérité. Puis les gens, surtout les gens non autochtones, veulent sauter à la réconciliation avant
ouais.
de passer en
le
travers
but.
Du processus. Tu peux pas avoir la réconciliation si tu connais pas la vérité, si tu reconnais pas tes torts, et ensuite tu peux arriver à la réconciliation. Puis ça, c'est pas un trajet que les Premières Nations doivent faire ou les peuples autochtones doivent faire. Ça, c'est quelque chose que les non autochtones doivent faire. C'est eux qui ont causé les dommages. C'est la colonisation qui a changé ce que la colonie de la Rivière-Rouge était avant. Ils sont venus ici, ils ont imposé leurs lois, ils ont dit « Ah, oh, les métis ne sont pas civilisés, les Premières Nations n'ont pas droit à la terre. » C'est eux qui ont porté qu'on devrait avoir juste une langue, une religion, puis c'est ça qu'on devrait préconiser dans la société. Ça, c'est pas du tout ce que la colonie de la Rivière-Rouge était avant que ça devienne le Manitoba, puis avant que les colons sont venus d'ailleurs.
Et c'est drôle que maintenant, on est en train de faire un recul, mm-hmm. pour avancer.
Puis, je veux dire, mais c'est ça le but de connaître son histoire, c'est d'aller voir ces leçons-là, puis de les appliquer, puis de changer la société. Pour moi, c'est le but du système d'éducation tout court. Pour moi, le système d'éducation, c'est pas donner des diplômes, c'est pas d'augmenter nécessairement les notes, que les élèves aient des A ou des B, des C. Pour moi, le but ultime de l'éducation, c'est de devenir une meilleure personne. Puis en devenant une meilleure personne, tu changes la société pour qu'elle soit meilleure. Puis il y a des gens qui vont dire que c'est naïf, mais pour moi, c'est ça que c'est l'éducation. C'est donner les outils pour améliorer le monde, améliorer ta société, pour qu'elle soit meilleure pour tout le monde.
Alors, dans ton poste actuel, si j'ai bien compris jusqu'à date, c'est que tu guides les enseignants, les pédagogues dans ce cheminement interne, mais aussi pour qu'ils puissent enseigner ceci aux élèves.
Oui, puis aussi qu'ils revoient leur curriculum. Comme je fais beaucoup de choses. Un jour, je peux faire de la co-planification, par exemple, avec des enseignants de sciences de 7 et 8. Puis regarder un module de sciences, puis dire comment on peut regarder ça sous une perspective ou des perspectives autochtones. Parce qu'il n'y a pas juste une perspective autochtone. Il y a au-dessus de 200... Premières Nations qui occupent le territoire de ce qu'on appelle le Canada, puis ont toute leur façon de voir les choses. Mais alors, comment regarder le curriculum, puis comment le transformer pour que ça reflète ces perspectives-là? Je fais aussi des présentations, des activités avec des élèves. Par exemple, on a une série de cinq activités qu'on fait avec les élèves pour les informer sur les effets de la colonisation. Alors, par exemple, on fait une version de l'activité de la couverture. Alors, dans notre division, on a fait un... Puis ça, c'est un autre travail qu'on fait. On regarde à tous les curriculums, puis on crée des continuums. On a créé un continuum de sciences humaines où on regarde tous les programmes d'études de maternelle à la 12e année, puis on les décortique. On a décortiqué tous ces curriculums de sciences humaines-là, puis on dit, voici où est-ce que tu peux mettre des perspectives autochtones. Par exemple, en histoire 11e, on est rendu à la guerre de 1812. Bien, voici ce que les choses que vous pourriez intégrer ou pas intégrer Tocome, c'est sa confédération autochtone qui ont appuyé les Britanniques dans la guerre de 1812. Parce que pour longtemps, moi, j'ai enseigné la guerre de 1812, puis c'est rare qu'on va le mentionner, Tecumseh. Puis c'est un des chefs emblématiques. Sans Tecumseh, les colonies canadiennes ou britanniques à ce moment-là auraient tombé aux Américains. Il y avait à peine 5 000 soldats britanniques, mais il y avait 35 000 soldats ou guerriers des Premières Nations. Puis c'était des guerriers d'une centaine de différentes Premières Nations. Puis le chef qu'ils ont tous unis, c'était Tecumseh. Mais personne ne parle de lui. Personne ne connaît qu'il est. Il est un de mes chefs politiques préférés dans l'histoire de l'Amérique du Nord. Mais il y a presque personne qui connaît. Cependant, ils connaissent, si tu vas à l'Est, il y a toutes sortes de compagnies qui sont nommées pour lui. On va s'approprier de son nom pour vendre des choses, comme Tecumseh Motors. Il y a toutes sortes de choses qui sont nommées pour lui. mais on ne connaît pas son histoire et son importance. Alors souvent, ce qu'on va faire, c'est que les gens qui sont non-autochtones vont s'approprier des choses qu'ils aiment des Premières Nations, l'utiliser, le vendre, mais même pas connaître l'histoire de ces personnes-là. Exactement. Exactement. Alors, un jour, c'est ça que je pourrais faire. Je peux m'asseoir avec des profs, faire de la co-planification d'un module. Un jour, je pourrais faire une activité de la couverture pour 50 élèves de la 11e année au Collège Jeanne Sauvé, par exemple. Un autre jour, je donne du développement professionnel à des administrateurs, faire une grande présentation. On a fait 5 développements professionnels pour tous les administrateurs de la division. Alors, chaque jour, je fais quelque chose de différent. Et moi, ça me stimule énormément parce que je ne fais pas la même chose à chaque jour. Tu sais, je parlais de comment j'étais confortable dans la salle de classe. Il y a quand même une sécurité de savoir qu'est-ce que tu fais à chaque jour. Mais après ça, tu sais, c'est comme j'ai besoin d'un défi. Puis ça, c'est un défi parce que je fais quelque chose de différent à chaque jour.
Oui, et là, ton impact est plus grand parce que tu enseignes les personnes qui enseignent aux élèves. Donc, tu es en train d'apporter des changements plus importants que tu le faisais avant.
Pour moi, c'est ça. C'est qu'avant, j'avais un impact sur les élèves qui passaient dans mes classes. Mais là, je fais même des présentations pour des parents des soirs. Alors, je peux affecter du changement chez les parents. Les administrateurs, eux, sont en charge de 20 à 30 enseignants et auxiliaires dans leurs écoles. Si j'ai un impact sur eux, ils vont exiger des changements dans leurs salles de classe, dans leurs écoles. J'ai un impact avec les enseignants. Alors, pour moi, oui, je touche beaucoup plus de personnes en étant un enseignant itinérant que d'être dans une salle de classe.
Alors, je pense qu'on a touché ceci un petit peu, mais pourquoi est-ce que la division a créé ce rôle?
Bien, je pense qu'il y a eu... Quand que la Commission de vérité et réconciliation, ils ont sorti avec leurs actions... Il proposait des 94 actions de réconciliation. 63 parlent de l'obligation du système scolaire d'intégrer des perspectives autochtones. Et je pense que notre directeur général, Christian Michalik, prend ça à cœur. Il faut dire que c'est un homme qui a beaucoup d'influence dans la division. Évidemment, c'est le DG, mais il a une ouverture d'esprit, puis des connaissances, puis une éducation incroyable, dans le sens que c'est un homme humble aussi. Il est vraiment... Tu sais, ça prend des leaders puis des chefs comme lui pour créer de la place pour des gens comme moi et créer des places puis créer des postes comme ceux-là et changer la façon qu'on fait les choses. Alors, je pense à commencer dans notre vision scolaire avec notre leader. Christian, puis je ne sais même pas si je devais l'appeler Christian, on n'est pas, mais peut-être je vais l'appeler notre surintendant. C'est ça, il a créé de la place, puis il s'est enlevé du chemin, puis il a dit, si je veux de la réconciliation, il faut que je fasse la place pour des éducateurs autochtones, puis leur donner l'espace de créer, parce que c'est pas lui qui a créé les postes. On a décidé comme équipe, comment on était pour rapprocher l'affaire, comment on était pour changer la façon qu'on faisait l'éducation autochtone. Alors, ils nous ont donné presque carte blanche. Ils ont dit, qu'est-ce que vous voulez faire? Alors, ça vient avec son lot de difficultés parce que des fois, si tu n'as pas de paramètres, ça peut être difficile. Mais ça a pris un an et demi avant de vraiment savoir là, okay, dans quelle direction qu'on va aller. Alors, c'est ça, c'est des leaders qui prennent des risques. Tu sais, on dit souvent à nos élèves, prenez des risques, faites des erreurs, leur donner la place d'être confortable de faire des erreurs, mais d'apprendre de leurs erreurs, mais ça prend des leaders pédagogiques à tous les niveaux. Et je pense que c'est ça. D'abord et avant tout, Christian était un leader pédagogique. C'est ça que les administrateurs sont lead teacher en anglais, c'est ça qu'ils sont vraiment les directeurs ou les directrices. Ils sont des lead teachers dans leur, ils sont des enseignants d'abord et avant tout. Puis faut pas qu'ils oublient. Puis ça c'est puis Christian c'est ça, il a pas oublié qu'il était un éducateur d'abord et avant tout.
Et est-ce que je peux demander, comme est-ce que ces deux personnes là, alors le DG puis le surintendant, est-ce que ce sont des hommes blancs?
Oui, bien, Christian Michalik, oui, c'est un homme blanc. Il est canadien-français. Il était dans les écoles françaises et il est issu de ce système-là. Mais oui, c'est un homme blanc.
J'aime que tu as dit comme il a pris un pas de côté puis il vous a laissé le chemin parce qu'il a su que c'était pas son rôle d'imposer, mais de laisser la place.
Laisser la place. C'est de reconnaître ton privilège aussi. C'est quelqu'un qui je pense que beaucoup de leaders dans notre vision scolaire, beaucoup d'administrateurs puis administratrices aussi qui ont cette idée-là, qu'ils sont conscients de leur privilège, sont conscients de leur positionnement, mais aussi, tu sais, conscients que c'est important de donner de la place à des éducateurs autochtones de faire le travail.
Alors, ça m'intéresse beaucoup de savoir parce que je suis en train de de changer ma manière d'enseigner au lieu de diviser des choses en matière. Parce que moi, j'enseigne à la cinquième année, donc j'ai vraiment l'occasion de faire qu'est-ce que je veux. Alors, pour moi, je suis en train de vraiment comme remettre en question le fait qu'on a tendance à juste diviser la journée en matière parce que c'est vraiment, ça n'a pas de sens. Et j'essaie de, par exemple, surtout parce que le mois de septembre, on reconnaît les enfants autochtones qui ont perdu leur vie puis qui ont survécu les écoles résidentielles. J'essaie de donner une bonne base à mes élèves de cinquième de qu'est-ce que c'est d'être autochtone puis métisse. Je ne suis pas métisse, alors je le fais de la manière que je fais de mon mieux, disons.
Absolument, absolument.
Alors, j'ai commencé à comme juste regarder, observer comment j'enseigne d'une manière où est-ce que, bien, comment est-ce que je peux intégrer les sciences quand on parle de, ça va, je pense en septembre, ça va faire 2 ans que la réserve Shoal Lake est l'eau potable. Alors, mais là, je peux intégrer les sciences, le cycle de l'eau, pourquoi c'est important, mais pourquoi l'eau, c'est la vie. Puis, alors, j'essaie de, comme, c'est dur, parce que c'est pas la manière que j'ai appris. Alors, j'essaie de voir les choses de manière plus holistique. Alors, je sais pas si tu pourrais peut-être m'aider avec ça.
Oui, la première chose que, puis je trouve qui est important, c'est que souvent, les enseignants qui sont non-autochtones pensent qu'ils n'ont pas les connaissances ou ils ont peur de faire une erreur, etc. Ça, c'est très courant, puis je l'entends souvent. La première chose que je veux dire aux gens, c'est si vous enseignez la vérité ou les choses de la bonne façon, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter de faire des erreurs. Si votre intention est là, puis on reconnaît notre positionnement. Les gens pensent que il faut enseigner la spiritualité. Ça, c'est la première chose. Les gens, ils pensent qu'il faut enseigner la culture et la spiritualité autochtone. Ils veulent sauter au Dreamcatcher. Ils veulent faire des bricolages, des choses de même. Puis ça, c'est la dernière chose que tu devrais faire. La culture et la spiritualité, c'est pas la responsabilité des enseignants. On va laisser les aînés puis les familles s'occuper de ça. Ce que les enseignants non autochtones devraient faire, c'est comme tu viens de mentionner, c'est décloisonner leur matière. Parce que ça aurait été la façon que les Premières Nations, les Métis auraient appris. Par exemple, tu prends pour les Métis, c'est la chasse aux bisons. Ça, c'était le système d'éducation. Fait que, par la chasse aux bisons, les enfants suivaient les parents. Il y avait des leçons importantes qui ressortaient de la chasse aux bisons. Premièrement, la première grande leçon, c'est que tu ne peux rien faire sans la communauté. Que le monde doit s'entraider pour vivre. Alors, ton système économique est influencé par cette façon-là, parce que là, ceux qui ne sont pas capables de faire la chasse, les gens qui sont qui n'ont pas l'habileté physique de le faire, les gens qui n'ont pas l'habileté mentale de le faire, on fournit pour eux aussi. Alors, cette idée-là de fournir pour tout le monde. Alors, ça, c'est une grande leçon, cette idée de communauté. L'autre leçon qu'on sortait de la chasse aux bisons, c'était la durabilité. Que si tu tues trop de cet animal-là, il n'aura pas pour les générations à venir. Alors, souvent en science, on parle de durabilité puis l'importance de ça, mais une façon de connecter une perspective autochtone, ce serait de parler de la durabilité. On pourrait parler en science de la durabilité en parlant de la chasse aux bisons des métisses. Fait que là, tu peux faire de la science humaine, puis tu peux faire de la science en même temps. L'autre chose, on peut parler de comment les bisons étaient intégrales à la survivance de la biodiversité des plaines. Parce que c'est les bisons, eux, qui mangeaient les plantes et transportaient les graines tout partout. Ils s'assuraient qu'on avait un écosystème qui était viable. On peut aussi parler de comment cette prairie-là, ça prend des milliers d'espèces de plantes de vivre ensemble. Il y a des plantes qui sont codépendantes l'une de l'autre. Il faut qu'ils vivent ensemble pour survivre. Alors, les plantes nous apprennent aussi au sujet de la communauté. Puis comment c'est important que des différentes personnes, que différentes espèces, différentes plantes, on pourrait transférer ça et parler d'inclusion dans nos salles de classe. Que le jardin ou la prairie nous démontre que des gens... des différentes personnes doivent vivre ensemble en harmonie pour que ça fonctionne. On pourrait parler, une autre grande leçon des bisons, c'est le fait de ne pas gaspiller. Ça, on le fait souvent. Mais cette idée-là que la chasse aux bisons est un prétexte pour que les aînés, les adultes et les enfants soient ensemble puis on raconte des histoires en tout du feu. Et c'est à ça le système d'éducation. C'est par les histoires qu'on éduquait les gens. Fait que souvent, on pense que l'éducation, ça doit être dans un lieu formel, dans une salle de classe, avec des rangées, avec des sujets cloisonnés. Mais la chasse aux bisons nous démontre que l'éducation peut être faite autrement. Ça peut être fait autour d'un feu et on peut parler de toutes sortes de choses. Les histoires que les aînés racontaient, ça va dans des fois, là, tu peux écouter un aîné pendant 3 heures de temps, là, puis tu es là, tu l'écoutes ou tu... Puis là, tu réalises que tout le monde va avoir une différente leçon à partir de cette histoire-là. Puis c'est comme ça que c'est censé être. C'est pas à l'éducateur de dire à la personne qui l'écoute qu'est-ce qu'il devrait apprendre. C'est l'étudiant qui devrait ressortir ce qu'il a appris. Et tous les étudiants vont sortir quelque chose de différent, puis c'est correct, ça. Des fois, on a l'impression, comme enseignant, que tout le monde doit apprendre la même chose, de la même façon. Et en utilisant les histoires, puis l'histoire orale dans nos salles de classe, on fait l'éducation différemment. Alors, c'est toutes les différentes choses qu'on peut faire dans nos salles de classe. C'est juste ça, un peu sortir de la boîte, parce que le système scolaire a été utilisé pour coloniser, a été utilisé pour assimiler, a été utilisé pour créer le patriotisme, a été utilisé, c'est comme un genre de machine à saucisse, là. On voulait créer... des élèves. On voulait donner des certificats, puis on voulait que les gens soient pareils en sortant. Ça a été utilisé aussi pour recréer une société que certaines élites veulent qu'on continue. Alors, si on veut changer la société, il faut changer la façon qu'on fait l'école. Puis je pense, en se basant sur certaines perspectives autochtones ou certaines pratiques autochtones, on peut faire ça. Mais comme j'ai mentionné tout à l'heure, c'est pas enseigner la spiritualité, c'est pas enseigner les dream catchers qu'on va faire ça. C'est en intégrant certaines pratiques autochtones dans nos salles de classe. L'autre chose qui est très importante, puis je pense qu'on a oublié dans le système scolaire, puis ça, c'est une grande philosophie de toutes les Premières Nations, c'est que l'enfant doit être au cœur de tout ce qu'on fait. Puis malheureusement, je pense que le système scolaire en ce moment... c'est pas l'enfant qui est au cœur de tout ce qu'on fait, c'est l'argent.
J'allais dire la même chose.
C'est l'argent. Puis c'est ça que je pense que le système scolaire moderne nous démontre aussi aux élèves, parce que souvent quand tu t'assois avec eux, pourquoi tu es à l'école? Bien, je veux une bonne job, puis je veux une belle maison, puis ça. Puis vraiment, c'est pas ça l'éducation. Ça devait être comment que je peux devenir une meilleure personne. Alors, je pense qu'on commence à la base, puis dire, c'est quoi mon rôle comme éducateur? Puis revoir ça, à partir de ça, on peut se développer une nouvelle philosophie dans notre salle de classe. Mais tu as raison, le décloisonnement des sujets, de la matière, moi, je pense que c'est la première étape. L'interdisciplinarité, c'est ce qu'on disait quand moi, j'étais à l'Université de Saint-Boniface, décloisonner les matières, je pense que c'est la première chose, surtout à l'élémentaire, ce que vous avez... Vous avez ce
privilège.
Privilège, mais aussi cette chance, de cette liberté de le faire. Je pense que ça, c'est la première chose que je ferais comme enseignant. Tu peux enseigner différencier en sciences, tu peux enseigner à travers puis aussi, c'est de varier, tu sais, quand on parle à la littérature et la lecture, c'est aussi de varier qu'est-ce qu'on lit, qui sont les personnages dans les livres qu'on lit. Il faut regarder à ça aussi. Il n'y a pas un manque de littérature jeunesse des auteurs autochtones. Ça serait une autre chose. C'est facile à faire. Puis souvent, ces livres-là vont donner des perspectives, vont faire le travail pour l'enseignant, si vous voulez enseigner certaines perspectives autochtones. Alors, ça, c'est des petites affaires. Mais d'abord et avant tout, il faut que l'enseignant se regarde dans le miroir et dise, ben, pourquoi j'enseigne? Quel est le but principal? Puis à partir de ça, soit de se déconstruire ou se construire.
Oui, je dois dire que décloisonner les matières, c'est un défi parce que j'ai appris à avoir, tu sais, mon moyen terme pour chacune de mes matières. Puis, tu sais, comme j'ai un tableau, puis je mets des informations dans chaque place, mais je trouve que ça ne fonctionne pas comme ça. Mm. Décloisonner. Je trouve ça vraiment un défi parce que moi, je suis quelqu'un d'assez type A aussi.
Oui, oui, oui.
So, moi, pour m'organiser et organiser mes pensées pour pouvoir ensuite enseigner, j'aime que ce soit très organisé.
Oui.
Mais trier des choses comme ça, oui, dans des colonnes, dans un tableau, ça fonctionne vraiment pas.
Mm-hmm.
Alors, en fait, j'ai frappé un mur, puis je me suis arrêtée, puis j'ai dit, OK, je me concentre sur d'autres choses, puis en fait, maintenant, grâce à cette conversation, peut-être je vais pouvoir trouver la motivation ou comme juste une idée de comment continuer. Mais en même temps, je vois que les élèves vont tellement mieux apprendre la matière. Parce que si je parle du lac Shoal puis comment que notre eau vient de là,
mm-hmm,
l'eau qu'on boit tous les jours qui coule de notre robinet sans qu'on y pense,
mm-hmm,
si j'intègre ça avec le cycle de l'eau puis le respect pour les animaux puis l'eau qui donne vie,
mm-hmm,
ça, c'est un apprentissage tellement plus profond,
oui,
que parler en séance. OK, aujourd'hui, on parle du cycle de l'eau. Évaporation, da-da-da-da-da. Comme, c'est vrai. Ça, c'est un apprentissage beaucoup plus intense et qui a un lien vraiment avec leur vie quotidienne. Et on parle de toujours faire ça comme une bonne pédagogie.
Oui, puis je pense qu'il y a une autre chose, tu sais, qui se rapproche beaucoup à l'approche pédagogique autochtone, ça serait la pédagogie par projet. C'est que donnons les outils aux élèves de construire puis de créer quelque chose. Au lieu de papier-crayon, régurgite sur un test dans une semaine, qu'est-ce que je vous ai dit mot pour mot, l'élève vous l'apprend par cœur, c'est parti. La minute que le test est fini. Tu sais, moi, j'ai horreur, là, quand que mes enfants revenaient de la troisième année, là, puis ils disaient, on a un test. En troisième année? Pour moi, c'est pas avoir l'enfant au cœur de l'éducation. L'enfant n'a pas besoin de test. Moi, je ne me rappelle pas la dernière fois que j'ai eu un test dans ma vie, mais j'apprends à chaque jour, hein. Puis j'apprends pas parce que je veux passer un test, c'est parce que je veux devenir une meilleure personne. Fait qu'il faut vraiment, je pense, faut changer l'approche. Faut changer qu'est-ce que... Tu sais, souvent aussi, là, faut, point de vue de gestion de classe aussi, il faut changer la façon qu'on... Souvent, on va miser sur des techniques qui fonctionnent à court terme, mais à long terme, ça donne pas les outils aux élèves de devenir des bonnes personnes. Moi, l'affaire de punition, les affaires de prix, puis de toutes sortes de choses extrinsèques. Oui, ça va fonctionner à court terme, mais là, on t'apprend mouler des élèves qui vont juste faire des choses comme mon chien le fait. Viens marcher, je te donne une traite. Fais ci, assieds-toi, je te donne une traite. Puis on va utiliser les tests, puis on va utiliser les notes comme des traites pour nos enfants, pour nos élèves. Oui, ça fonctionne à court terme, c'est certain. Ils vont avoir des bons résultats, ils vont être... Mais est-ce qu'ils sont vraiment heureux, puis est-ce qu'ils apprennent pour les bonnes raisons?
Mm-hmm.
Alors, pour moi, il faut qu'on change la façon qu'on approche l'éducation avec... C'est des enfants. Pourquoi en 7e puis 8e année, les enfants... Puis on le voit à toutes les études de démontre, pourquoi que l'engagement descend énormément entre la 8e et la 9e année? Parce qu'ils entendent des histoires, ils savent que, ou ils ont l'impression que, au secondaire, c'est les notes qui comptent. C'est pas qu'est-ce que tu apprends. On s'en fout de ce qu'on apprend. Moi, je veux mon diplôme, puis je veux mettre des bonnes notes. Puis ce qui est rendu secondaire, c'est les choses qu'on apprend. Puis je pense que des enseignants, on tombe dans ce piège-là aussi. Surtout quand, tu sais, des fois, il y a un manque d'engagement dans la salle de classe. Souvent, la première chose que certains enseignants vont faire, puis je l'ai faite, moi. Je disais, écoute, si vous ne faites pas ça, vous n'allez pas passer votre cours, là. Oh, c'est pas moi qui faillis, c'est vous, vous faillissez vous-même. Si l'élève veut pas s'engager dans la salle de classe, il faut regarder, c'est pas juste à l'élève qu'on regarde, il faut regarder, mais est-ce que j'enseigne de la bonne façon? Il faut se regarder dans le miroir de temps en temps et dire, hey, l'enseignant a la plus grande influence sur la vie des étudiants et comment ils apprennent. Alors, si mes élèves apprennent pas, ben qu'est-ce que je fais de mal? Puis il faut avoir l'humilité. Puis je pense que ça, c'est une des grandes choses qu'on manque en éducation, c'est cette idée d'humilité. Que moi aussi, comme enseignant, je vais faire des erreurs, mais il faut que je prenne des risques. Torieux, je peux pas refaire les mêmes photocopies pour 20 ans. Je peux pas faire de la même façon avec les jeunes d'aujourd'hui que je faisais il y a 10 ans, les jeunes il y a 10 ans. La société change, la façon qu'on enseigne doit changer, doit évoluer aussi. Ça, c'est quelque chose, je pense, c'est une des choses que j'ai appris le plus en passant beaucoup de temps avec les aînés, c'est cette question d'humilité. Cette question que je vais faire des erreurs, puis c'est obligatoire de faire des erreurs parce que je peux pas devenir une meilleure personne si je fais pas des erreurs. Alors, ça te donne la liberté d'essayer des nouvelles choses. Alors, si on veut que nos élèves le fassent, nous, comme éducateurs, on doit le faire aussi.
Nous allons nous arrêter ici pour la première partie de l'épisode. Soyez à l'écoute le mois prochain pour la suite de l'entrevue avec Joël Tétrault. Jason Éducation est un balado créé et réalisé par moi-même, Joël Boulay, en collaboration avec WebWest Balado. Pour ne jamais manquer un épisode, abonnez-vous à Jason Éducation sur votre appli de balado préféré ou visitez webwest.ca. Je vous invite également à évaluer le balado sur iTunes. Vous venez d'entendre une production de WebWest Balado. Découvrez une multitude de contenus audio francophones du Nord et de l'Ouest sur webwest.ca. On s'entend là-dessus!